Maintenant, la parole va être un peu à vous. Je voudrais d'abord savoir si dans la salle, je pense qu'il y a plusieurs parmi vous qui font partie d'associations ailleurs et qui auraient peut-être envie de témoigner de leur action là où ils sont.
Je ne sais pas si le raidard est de dit est représenté, mais sinon je peux aussi en dire un mot. Donc moi je suis Michel Hénard, j'ai été pendant 4 ans président de l'association Val de Drôme Accueil Réfugiés qui est basée à Cré. Dans un premier, cette association elle a 9 ans. Elle aura 9 ans cette année. Elle a débuté par une réunion organisée par la CIMADE et l'ASTI, qui a réuni une soixantaine de personnes et où j'ai eu l'agréable plaisir de voir que il y avait plein de têtes connues et de gens motivés pour accueillir. Donc, il fallait proposer des logements et il se trouvait que je pouvais en mettre un à disposition. Donc on a démarré. Il y avait une première famille qui était arrivée. C'était des Yézidis d'Irak qui sont arrivés à Grane par le biais des chrétiens d'Orient. Et quand j'ai voulu, avec ma femme, quand on a voulu accueillir, on nous a dit, mais c'est un peu plus long, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut d'abord que les gens soient triés. En fait, c'était suite au projet d'accueillir 35 000 réfugiés en France pour désengorger les camps en Europe. Donc nous, on voulait accueillir des gens de camps, sortir des gens des camps. Et donc il fallait d'abord que leurs papiers soient bien en règle, tout ça, et ça allait prendre minimum un an. Et j'étais en centre d'accueil et d'orientation, comme celui qui a existé à Alex. Et donc nous, ça ne nous convenait pas, on voulait accueillir tout de suite. Donc on a été sollicité par cette famille qui était arrivée à Grande et qui voulait faire venir leur propre famille, les propres parents et frères et sœurs. Donc on a accueilli une première famille comme ça avec 5 enfants. Et une fois qu'ils, enfin après il y a eu un deuxième accueil d'une autre famille avec 5 enfants aussi. Donc deux et puis chaque fois c'était on leur indiquait que c'était juste le temps de prendre pied, d'apprendre le français. Donc la première famille était restée 1 an et demi. La deuxième famille, on avait monté le dossier parce que j'avais sollicité la mère de Mirabel Blaconde, dont parlait Céline tout à l'heure, qui avait fait un beau discours sur l'arrivée des Italiens dans son village. C'était la fête du jumelage. Et je lui ai dit, après ce beau discours, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un logement quelque part dans la commune pour accueillir une famille. Et elle m'a répondu, si, si. Si bien que aussi sec, j'ai fait les démarches pour accueillir cette famille, sauf que le logement n'était pas prêt quand elle est arrivée. C'est pour ça qu'elle est venue se loger chez moi. Mais il y a eu comme ça d'autres communes qui ont mis à disposition des logements communaux. Parce qu'on commençait un peu à être connu et reconnu dans la vallée.
On voit bien la richesse des initiatives. Du coup, voilà. Maintenant, s'il y a des remarques, des questions, des envies d'apporter quelque chose, n'hésitez pas.
Merci beaucoup tout d'abord. Et ma question, c'est vers Aurélie Charras. Parce que quand on fait l'accueil, quand on accueille comme ça des personnes sur le territoire, il faut du temps avant qu'ils obtiennent des papiers ou. Et pendant ce temps, le problème qu'on rencontre, c'est le non-accès au travail et qui est très difficile à vivre pour les personnes. Et vous, je trouve que c'est super ce que vous faites, mais comment on peut faire pour avoir cet agrément que comment vous l'appelez là, OACAS, si nous on pourrait l'avoir dans une association. Et la deuxième chose, vous dites que des professionnels interviennent 2 demi-journées par semaine auprès d'eux. Mais ces professionnels, ils font ça à titre bénévole ou est-ce qu'ils ont le droit? Parce que nous, le problème, c'est que quand ils sont là depuis longtemps, il y en a qui en souffrent de ne pas travailler. Et ben, je ne sais pas s'il faut le dire, mais on les laisse faire s'ils trouvent du travail au noir, parce que, mais seulement ça les met en danger. Et voilà, c'est un, je trouve que c'est un gros problème, ce travail avec, ce problème avec le travail. Merci.
La question du travail, c'est toujours la même, c'est-à-dire que à la fois ils en ont besoin parce que s'ils veulent être régularisés, il faudra qu'à un moment ils fournissent des feuilles de paye, et à la fois ils n'ont pas le droit. Donc c'est le voilà. Donc effectivement, nous on est un territoire rural, donc il y a quand même il y a des saisons, il y a voilà, il y a les vendanges, où il y a les noix et tout ça, donc. Il y a des moments où en fait ils arrivent à trouver comme ça des employeurs qui acceptent de prendre le risque de les embaucher, mais ils arrivent en fait, il suffit juste qu'ils créent un numéro au niveau du travail là, et ça suffit pour les embaucher. Et nous, ce qu'on a pris comme décision, c'est-à-dire que quand les compagnons ils trouvent un travail, en fait, on les laisse forcément aller travailler, et ils ont plus l'obligation des activités régulières qu'on leur demande le reste du temps, en fait. Voilà. Nous, on n'est pas, c'est à eux de voilà. Nous, on peut pas trouver du travail pour eux. C'est pas notre rôle. En tout cas, on s'est pas donné cette mission-là. On ne peut pas, on n'est pas reconnu encore, on n'a pas encore cet agrément, qui est un agrément d'État qui a été créé en 2007-2008 à peu près par l'État, qui est un agrément qui est donné à des structures qui sont pas reconnues de type social, en fait. On n'est pas un centre social, on n'est pas un établissement social et tout ça, donc on est d'autres associations. Donc c'était de donner la possibilité à d'autres associations, effectivement, de pouvoir indemniser, pouvoir garantir un peu une manière de travailler, voilà, pour des personnes qui peuvent être aussi dans l'insertion. C'est pas forcément des personnes exilées, en fait. Ça peut être aussi des personnes qui sont en réinsertion et des choses comme ça. C'est assez difficile à obtenir, l'agrément. Nous, on est pour essayer d'accélérer les choses, on s'est rapproché de deux réseaux. D'un côté, le réseau Emmaüs, parce que les Emmaüs, en fait, tous les Emmaüs de France, parce qu'il y a une demande d'un Emmaüs, et après, du coup, les autres Emmaüs bénéficient de l'agrément, l'ont obtenu, en fait. Mais pour rentrer dans le réseau Emmaüs, c'est compliqué, parce que les Emmaüs de France, c'est des associations qui existent depuis très longtemps, qui elles ont une vraie activité qu'on reconnue, en fait, avec les voilà, toutes les activités, ils ont une vraie activité qu'ils proposent et qui leur permet vraiment de finalement proposer, pouvoir donner un peu des indemnités à ces personnes qu'ils accueillent. Mais pour être reconnu Emmaüs, il faut un temps. On est trop jeune, on est trop jeune comme asso. Donc, on l'aura peut-être, on sera peut-être un Emmaüs un jour. Il y a un Emmaüs qui a fait un peu exemple, mais parce que en fait, eux, il y avait tellement un enjeu politique, c'est l'Emmaüs Roya. Je sais pas si vous avez entendu parler, dans la vallée de la Roya, où c'est pareil. À un moment donné, ils ont eu beaucoup beaucoup de monde qui sont passés parce qu'ils avaient fermé la frontière à l'Italie, voilà. Donc c'était, ils avaient remonté la rivière. La rivière, en fait, elle aboutit à la mer en Italie, mais en fait, ils ont remonté la vallée et tout ça. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est proposé, qui les a accueillis et tout ça. Et à un moment donné, il a dit, mais il faut qu'on trouve un moyen, une structure pour le faire. Et ils ont eu un peu le même projet qu'on avait dans le Liwa, ou plutôt nous, on a un peu le même projet que la Roya. Et eux, de suite, en fait, ils ont obtenu l'agrément. Ils sont rentrés dans le réseau Emmaüs et ils ont eu l'agrément. Voilà. Nous, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres réseaux, en fait, qui l'ont. Il y a un réseau qui s'appelle l'UILV. C'est un réseau de lieux à vivre, en fait, qui reçoit pas forcément que des personnes exilées, mais qui peut recevoir des publics sensibles, comme des femmes qui partent de leur foyer parce qu'elles ont des violences conjugales et tout ça. Et voilà. Et ces réseaux-là ont pu obtenir des agréments au ACAS. Voilà, on essaye de se rapprocher pour essayer de l'obtenir, mais on n'est pas garant, et je peux pas vous garantir de. C'est un dossier qui est compliqué quand même à monter, quoi.
Une question, moi, à Philippe Agnus, en fait, parce que dans ce que j'entends là depuis le début et puis même dans l'exposition, on entend beaucoup le terme construction ou déconstruction. Et donc, en fait, effectivement, il y a l'idée de construction sociale qui donne une certaine image à l'étranger et donc quelque chose à déconstruire. En même temps, il y a quelque chose à construire ensemble, ce que vous essayez de faire, en fait, pour les accueillir, pour qu'ils aient effectivement une vraie place. Et je voulais un peu savoir dans l'histoire, justement, comment c'était passé, peut-être avec ceux du sud-est asiatique ou les Arméniens, comment ça s'est passé, justement, dans le fait de petit à petit arriver à travailler, à rentrer. Est-ce qu'à chaque fois, c'était long comme ça? Parce qu'on a cette impression de longueur, d'urgence, mais... En fait, le temps...
C'est une question extrêmement complexe. Je ne sais pas si je suis compétent pour y répondre, mais disons qu'on peut prendre des précédents historiques. Ce qui est assez difficile à résoudre comme question, c'est qu'en fait, on est dans... disons qu'il y a des sociétés de l'abondance, il y a des périodes de crise économique. Moi, je pense que, par exemple, aujourd'hui, on a tendance à idéaliser. Alors, c'était rigolo, vous rappeliez, on a bien accueilli les Italiens. C'est pas vrai. On sait qu'il y a des périodes de l'histoire, fin 19e siècle, où il y a un climat d'italophobie et que dans le contexte de la première crise de la mondialisation, hein, des années 1875 à 1900, il y a vraiment une montée, alors, italophobie côté français, une gallophobie côté italien et l'avènement de ce qu'on appelle le nationalisme de frontières qui, à bien des égards, résonne avec notre actualité. C'est-à-dire, durcissement de l'appareil, ce qu'on appelle aujourd'hui la militarisation de la frontière dans le Briançonnais, par exemple, avec des dispositifs policiers surréaliste, hein, avec même maintenant les sentinelles qui sont là en principe pour lutter contre le terrorisme dans les espaces urbains, se trouvent distribués près du col du Mont-Genèvre. Donc il va s'en dire que c'est un théâtre à destination de l'opinion publique. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on fabrique l'autre, l'étranger, la figure du migrant, de l'exilé, comme problème de société majeure. Et là, je pense que c'est vraiment un message destiné à ce qu'on croit être les peurs. Hein. Alors, dans les contextes de crise économique, c'est assez récurrent. Depuis ce qu'on appelle... Enfin, l'opinion publique, ça se met en place avec l'avènement de la presse de masse dans la seconde moitié du 19e. Et c'est vrai que... Dans le contexte des années 1890-1910, il y a vraiment des choses qui ressemblent étrangement à ce que l'on vit aujourd'hui dans l'altérisation, l'animalisation de la figure de l'étranger. Par exemple, concernant l'italien, il était vecteur du choléra. Hein. Et c'est vraiment, comme aujourd'hui, on pourrait dire, hein, je vous cite Pascal Praud, ce sont les étrangers qui véhiculent les punaises de lit. Donc il y a comme ça régulièrement des ce qu'on appelle des faiseurs d'opinion qui instrumentalisent ces questions-là. Alors, en même temps, les pouvoirs publics, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Il y a aussi ça au sein de la fonction publique, des personnes qui sont plus ou moins humanistes ou altruistes. Donc les politiques publiques sont faites comme ça, en tâtonnant. Et puis il y a des périodes, au contraire, on peut parler de l'après-guerre, où il y a un grand récit collectif réconciliateur, effectivement, où on tente de pacifier la société. Vous voyez, donc tout ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un moment très paroxystique où on voit effectivement, tu le rappelais aussi, des formes d'instrumentalisation par des partis désormais mainstream, hein, qui ont pignon sur rue, et puis des groupuscules identitaires. Ce qui s'est passé dans notre région avec les événements dits de Crépol, où on oppose une ruralité essentialisée versus une urbanité décadente avec des quartiers, etc. Bon, tout ça, je vous renvoie là un papier très intéressant co-signé par Pierre Antoine Landel, hein, qui était un géographe de l'IGA qui habite Valence, qui a fait une réponse, hein, qui a montré finalement que Romans et Crépol, ça fait territoire commun, hein, c'est pas, voilà. Donc vous voyez, on est dans ce moment-là. Donc il y a à la fois des périodes de l'histoire où tout tendrait à ce qu'ensemble on chemine vers une forme de pacification des consciences, et puis des moments où c'est très disruptif, quoi.
Je voulais revenir sur un truc historique, en fait sur les codes de nationalité, donc le droit du sol, aussi en particulier aussi par rapport au maquis du Vercors, parce qu'on dit qu'il y a 10% de personnes qui ont combattu qui étaient pas nées en France, donc certainement certains avaient acquis la nationalité française, mais je me souviens plus en fait... Parce qu'il y a eu une remise en cause, il me semble, au moment de Vichy, du droit du sol. Donc ça veut dire les enfants nés en France de parents étrangers ont la nationalité française. Qu'est-ce que, en fait, on peut aussi imaginer que dans le maquis, il y avait ces enfants-là, possiblement. Est-ce qu'on arriverait à voir aussi des gens, voilà, parce que le pas que de lieu de naissance, mais aussi de nationalité. Et aussi, ça rejoint la remise en cause du droit du sol actuellement, en fait, comme il est arrivé à Mayotte.
Oui, j'ai pas d'éléments particuliers pour vous répondre. Je sais pas si Philippe.
Ce qui est, effectivement, bon, Vichy est un État xénophobe, hein, assumé. Donc de fait, il y a des politiques de dénaturalisation. Hein, ça, c'est concernant la question des Italiens, qui est très intéressante, qu'a soulevé Pierre-Louis. Effectivement, à partir du moment où ils sont, quand bien même sont-ils français d'attachement, présents dans l'espace économique et politique et public depuis 30 ans, un certain. Alors, il y a certains qui ont été naturalisés français, d'autres non. On les désigne comme italiens. De la même façon qu'au début, on stigmatise les juifs étrangers, puis après les juifs tout court. Donc c'est même plus une question d'appartenance nationale. Hein. À un moment, vous êtes, par votre patronyme, désigné comme n'étant pas légitime à être là. Et c'est là qu'on est au cœur de l'indésirable. Hein. Alors après, effectivement, il y a les appareils législatifs, plus ou moins sophistiqués, qui. Mais il y a aussi. Alors c'est ça qu'il y a. Il y a aussi un contexte idéologique qui fait qu'à un moment, à la fin de la guerre, il y a eu des enquêtes, hein, qui ont été diligentées par les pouvoirs publics, alors notamment ce qu'on appelait les commissaires de la République, hein, pour connaître l'état de le bon comportement des étrangers pendant la guerre. Et c'est assez troublant. C'est vraiment intéressant parce que ces enquêtes sont faites par des notables, des représentants. Alors ça peut être le curé d'un village, un instituteur, le maire, etc. Sous contrôle gendarmique. Donc on les fait témoigner. Et des personnes, alors il est dit que par exemple, l'Italien Tartampion s'est bien comporté, a mis par exemple son tracteur à disposition des organisations du maquis. Alors c'est pas un acte de résistance au sens de la résistance armée, mais c'est une aide à la résistance. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre aussi de manière rhizomique toute la chaîne des petites choses, de ce qu'on peut appeler la résistance civile. On a des témoignages très poignants, hein, d'enfants de charbonniers qui ont guidé aussi des personnes qui étaient en situation de déshérence, perdues dans la forêt, à rejoindre des lieux de refuge. Hein. Et ça résonne vraiment avec notre actualité. C'est-à-dire que là, paradoxalement, et c'est là qu'on pourrait avoir un message un peu optimiste, c'est que la société est moins malade dans son organisation quotidienne. Il y a quelqu'un qui parle à propos de la solidarité aujourd'hui, je cherche son nom, c'est un historien qui a accompagné la rénovation du Musée national d'histoire de l'immigration à Paris, qui dit qu'en fait, il y a une espèce d'archipel de la bienveillance et de la solidarité qui est largement aussi intéressant que ceux que l'on croit être l'état d'opinion publique. Simplement, aujourd'hui, voilà, pour X raisons de propagande, il y a une espèce d'appareil idéologique extrêmement puissant qui tendrait à nous laisser croire que notre société est malade. C'est pas si vrai que ça. Je pense que si on regarde, moi je suis surpris. Le Val-de-Drôme, c'est fascinant aujourd'hui, le nombre d'associations diffuses et de collectifs informels, parce qu'il y a tout ce qui se passe dans le in et il y a le off et le off du off. Hein. Et c'est très 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 intéressant de montrer finalement. Et c'est peut-être là que on a aussi à faire entendre ces voix-là, hein, ces voix de l'ombre, pour dire et allumer des contre-feux face à des discours qui finissent par nous hypnotiser, hein, nous sidérer.
Ouais. Et peut-être juste pour compléter, rappeler effectivement, on a évoqué la question de la présence des étrangers dans le maquis. On pourrait aussi évoquer leur participation active à la reconstruction du Vercors. Parce que dès lors que le village va être dévasté, notamment celui de Vassieu-en-Vercors, il va falloir les reconstruire. Ça va être un travail extrêmement long. Donc ils vont être physiquement présents pour participer à la reconstruction des villages. Mais ils vont aussi jouer un rôle important dans le repeuplement, notamment du village de Vassieu. Il y a nombre de familles qui ont parmi leurs ancêtres des ouvriers qui sont arrivés. J'ai deux collègues de boulot qui ont chacune... un grand-père qui arrivait de Moselle pour la reconstruction des routes et un père qui arrivait d'Italie au sein d'une fratrie pour reconstruire le village de Vassieu. Ils se sont implantés localement, ils ont rencontré des Vassivennes ils ont participé aussi à la reconstruction de la vie du village. Et il y a aussi quelqu'un que connaît bien Philippe, hein, qui est Hans, qui était lui-même alors prisonnier de guerre allemand, qui est arrivé à Vassieu pour la reconstruction du village de Vassieu et qui est resté à Vassieu quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Donc effectivement, ces afflux migratoires dans le Vercors pour la reconstruction, c'est quelque chose de tout à fait important qu'on souhaite aussi mettre en avant dans le prochain parcours muséographique, puisqu'on est actuellement en train de refondre le parcours muséographique du Musée de la Résistance.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Philippe, une question sur la fraternité, parce que effectivement, on est submergé par des discours plus ou moins officiels et puis au gré, suivant les territoires, de certains élus, de certains préfets. Enfin bon, c'est très variable, mais effectivement, les actions se multiplient à plus ou moins grande échelle. Dans cette période qui est très difficile. Et il faut rappeler quand même que, mais personne, je dirais, dans des structures qui ont une voix, qui peuvent avoir une voix territoriale importante ou nationale, met en avant cette histoire de fraternité qui est un des piliers, quand même, de notre République, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a été d'ailleurs une des actions de Cédric Héroux assez importante, puisque c'est en justice la première fois que des gens ont été effectivement acquittés parce que, au nom, enfin, ça a rétabli d'une certaine manière la fraternité. Mais ça ne va pas plus loin. Et alors, la question est précise et directe parce que j'avais posé il y a quelques années au moment où se posait la question de l'accueil des réfugiés syriens. Hein, j'avais posé la question au bureau du parc de savoir que s'il y a un parc. Voilà, qui fédère 50, 60, 70, ça dépend des époques, communes. Pouvait pas se poser la question un peu d'un territoire et de l'accueil et de la fraternité, etc. Alors, je l'ai souvent dit, ça a ouvert des billes comme ça, comme si je parlais d'un je sais pas, enfin, si j'étais un ovni, mais je la repose. Je la repose, est-ce que des territoires, par exemple. Alors peut-être que ça donnerait lieu à des batailles, j'en sais rien. Mais est-ce qu'un parc naturel régional, du régional en particulier, en l'occurrence du Vercors, mais ça pourrait être d'autres, ne sont pas des territoires où on devrait se poser des questions à ce niveau-là, de type d'organisation, de type de structuration économique, d'accueil scolaire, enfin je ne sais pas, je trouve que ça fait partie des choses qui devraient se traiter et puis être portées peut-être comme la fraternité, ça peut continuer, hein, après les événements ou après le travail des Italiens.
En soi, je pense que les collectivités devraient s'engager un peu plus dans ces accueils-là. En tout cas, c'est ce qui marche, et surtout vers le parcours en l'emploi. Je pense à Lyon. Hein, Lyon fait un gros travail d'accueil social vers l'emploi, l'hébergement. Donc en fait, on est vraiment, effectivement, la fraternité passera par nos actions et les actions des élus. Voilà.
Le parc pourrait adhérer à l'ANVITA.
Enfin, en tout cas. Nous, ce qui fonctionne, on n'a jamais fait de campagne d'adhésion ou une communication. C'est des élus avec d'autres élus, c'est une espèce de bouche à oreille de dire, de proposer d'adhérer à l'ANVITA. Nous, on a des vigilances, on a une charte qui repose sur l'accueil inconditionnel, donc qui doit être votée. Et on a aussi une vigilance aussi sur, on ne va pas imposer un modèle d'accueil à un territoire. C'est pas notre objectif. On peut pas comparer ce que la ville de Lyon peut mettre en place avec la communauté de communes du Diois. Ça dépend des budgets, ça dépend des personnes aussi des publics et des liens aussi avec l'État. Mais tout à fait. Enfin, en fait. Parlons-en et puis prenons rendez-vous, quoi. Enfin, mais juste pour rebondir sur la question de la fraternité, là, il y a des villes qui, avec l'adoption de la loi asile et immigration, qui en fait se retrouvent dans une vraie problématique au-delà de l'aide envers les personnes exilées étrangères. En fait, les personnes étrangères constituent aussi notre force économique. Enfin, elles font partie, notamment pour les collectivités, des agents municipaux. Pour le périscolaire, pour les crèches, pour les cantines, pour tout type de services. Et aujourd'hui, avec la loi asile et immigration, on se retrouve avec des personnes qui ne peuvent plus régulariser leur situation, qui de fait se retrouvent en situation irrégulière alors qu'elles avaient un titre de séjour mais qui n'a pas été renouvelé, et qui se retrouvent, les collectivités se retrouvent face à des personnels qui sont en situation irrégulière et se posent la question de dire mais on a besoin d'eux, parce qu'ils constituent nos services. Et donc se pose la question de, au-delà de la fraternité, c'est comment on résiste et comment on rentre aussi en résistance par rapport à ça. Mais ça pose plein de questions, du coup, du travail illégal, de qui assume la responsabilité, parce que employer une personne en situation irrégulière, c'est des amendes, des peines de prison. Une ville qui, du coup, assume le fait d'employer des personnes, enfin d'employés, de poursuivre des contrats, mais pour des personnes qui se retrouvent en situation irrégulière. Donc il y a vraiment un enjeu au-delà de la fraternité, de en fait comment là aussi on se réorganise, construction des constructions. On est tout le temps dans ce un pas en avant, trois pas en arrière. Et aujourd'hui, c'est des fermes, c'est des crèches, c'est des périscos qui ferment parce que les personnes n'ont plus de contrat. Et donc voilà, c'est des nouvelles problématiques depuis janvier 2024, depuis l'adoption de la loi. Bon, enfin, c'était déjà des problématiques avant, mais là, en tout cas, les collectivités, clairement, elles se posent la question de, ben, en fait, comment on garde nos agents municipaux, quoi. Et donc les acteurs du privé se posent exactement la même question. Le MEDEF se pose énormément la question aussi, parce que voilà, c'est la... Donc il y a un vrai enjeu de face à cette déconstruction constante de l'État, des acquis, des droits, comment on tente de stabiliser dans un contexte complètement instable et de plus en plus précaire.
Moi, j'aurais une question sur la notion de migrant économique. Je comprends pas trop ce que c'est. Je vois que ça rentre dans les discours comme quoi il y aurait des bons migrants qui auraient le droit donc de demander l'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, par exemple. Et puis d'autres qui seraient économiques, donc parasites venus sucer le sang de la société française. Et je vois pas trop comment on peut faire la séparation.
Pardon. Non, j'étais en train de chercher un truc que je voulais vous lire tout à l'heure. Ce sera pour répondre à François Brazvic. Enfin, pas pour répondre d'ailleurs, pour nous inciter à réfléchir à ces questions-là. Alors, sur la frontière, il est évident que c'est aussi des constructions. C'est-à-dire que si on met de côté ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la période donc de l'ancien régime, le modèle que décrit assez finement Laurence Fontaine, donc de territoire construit autour de la mobilité, il va sans dire que c'est pas forcément la question du déplacement. Tout ça s'interpénètre. C'est-à-dire que la frontière entre déplacement à caractère économique et politique, c'est souvent instrumentalisé par des discours politiciens sous l'angle d'une lecture utilitariste, hein, c'est-à-dire que en ce qui concerne la période de l'entre-deux-guerres, on le voit bien qu'il y a à la fois des individus qui n'ont d'autre choix que de quitter leur territoire parce qu'il y a des problématiques de famine, des problématiques de chômage endémique, etc. Donc, ne sont-ils pas nécessairement de fait d'authentiques réfugiés ou exilés, hein, au sens où et puis il y a des migrations plus techniques, pendulaires, où des individus à gros bagages scientifiques, intellectuels, c'est une spécificité du temps présent. Bon, partent avec un projet migratoire ponctuel. Donc tout ça, c'est aussi la manière dont tout pareil, je pense que c'est lié à des problématiques d'opinion publique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui intérêt à diviser, hein, ce qui relèverait de catégories de bons migrants, alors soit utiles à la société, soit les super persécutés, voilà, dont on considérerait, par exemple, dans le contexte actuel idéologique, vous avez abordé tout à l'heure la question des yézidis, pas que dans le Val-de-Drôme, etc. Les yézidis sont aujourd'hui incarnent la figure du bon exilé parce qu'ils sont les victimes de l'agression du monde musulman, de Daesh, de l'État turc, etc. ou d'autres États totalitaires. Donc forcément, ils sont notre bonne conscience. Hein, d'un certain point de vue, on va les accueillir parce qu'ils incarnent la figure du persécuté, comme furent dans le contexte des années de guerre froide les représentants les immigrants du sud-est asiatique qui étaient les victimes du marxisme totalitaire. Hein. Donc, qui permettait aussi au pays des droits de l'homme de se refaire une virginité dans le contexte de la précolonisation. Donc, c'est vrai que tout ça, la personne qui se déplace et qui n'a pas forcément construit un projet migratoire, elle se pose pas la question en ces termes.
On est en lien avec des associations partenaires, amis de Romans, de Saint-Marcellin ou des collectifs. Après, nous, l'orientation qu'on a prise, c'est d'avoir des logements, de loger des familles. Bon, et ensuite de répondre aux besoins d'accueil. Donc ça a été fait avec le CAO qui s'est fait à Saint-Hilaire avec les Soudanais, qui, quand ils sont arrivés, bon, on est intervenu. De même que les Ukrainiens, quand ils sont arrivés dans le Royaume, on est intervenu. Après, nos capacités de logement se limitent à un appartement. On en a eu deux à un moment. Voilà, maintenant on n'en a plus qu'un. Et nos capacités d'accompagnement, parce que on se rend compte que loger, c'est bien, mais ça demande aussi tout un accompagnement tout autour, juridique, social, médical et autres, qui implique beaucoup de temps bénévole. Et donc voilà, nous, on est limité par ça. Et on voit bien que la marée des demandes possibles est énorme. On aurait 2, 3, 4 logements, on pourrait les remplir instantanément. Il suffirait de passer un coup de fil à l'AEL à Romans, qui sont surchargés, ou aux collègues de Cré et autres. C'est-à-dire que notre logique, c'est pas de répondre aux problématiques générales, j'ai envie de dire, globales. On n'a pas les moyens de faire ça. Par contre, notre problématique, c'est montrer que on peut accueillir dignement et que si un territoire comme le Royaume peut accueillir 3, 4, 5 familles, la France entière peut accueillir des millions de personnes. Et c'est ce qu'on voit donc chez vous dans le Crétois, dans le Guiois, c'est ce qu'on voit aussi à Cognières-les-Gorges, c'est ce qu'on voit dans plein d'endroits. Mais voilà, on aimerait accueillir plus, mais en même temps, c'est compliqué et on veut accueillir bien, donc on ne peut pas répondre. Les exemples qu'on a eus à Cadac et à Saint-Brévin montrent que implanter un CADA dans un lieu rural, c'est pas évident. On a vu les réactions à Saint-Hulaire. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. Et c'est vrai qu'ici, on a montré, rien qu'avec le CAO de Saint-Hilaire qui nous est arrivé dessus sans prévenir, comment une association locale, avec un collectif, parce qu'on n'était pas tout seul, avec un collectif, a pu apporter un complément d'accompagnement à une cinquantaine de jeunes hommes célibataires qui avaient vécu des choses très très compliquées. On les a accueillis, on les a accompagnés, on a fait des tas de choses avec eux. Et le CAO n'apportant que le logement et la nourriture. Donc il y a tout un truc. Comment ? CAO, c'est un centre d'accueil et d'orientation. Oui, d'orientation. Au moment où ils ont vidé la jungle de Calais et le camping, le campement de la Chapelle, porte de la Chapelle, camping, pardon, le campement de la porte de la Chapelle à Paris, et ils ont expédié plein de gens dans les centres. Et il s'est trouvé qu'à Saint-Hilaire, il y avait un centre de vacances EDF qui était fermé en hiver, et donc ils ont utilisé ce centre pour accueillir une cinquantaine de jeunes hommes qui ont débarqué là, venant de Paris.
Sans l'avoir choisi. Et juste pour compléter, pardon, les CAO, donc ce qui a été mis en place après l'évacuation de la jungle de Calais, il y a des ça s'est plutôt relativement bien passé de manière générale. Et en fait, quand l'État assume son rôle et accompagne la collectivité avec un préfet ou une préfète présente et voilà qui vient, où il y a un débat public, où les habitants sont mis au courant de ce qui va se passer, qui va travailler dessus, enfin. Quelles sont les associations engagées? Comment on peut faire un appel à bénévolat? En fait, ça marche. Enfin, ça se met en place. Vous avez à Alex dans la Drôme, il y a une manif anti-CAO, une manif pro-CAO. Ça, c'est voilà. Les gens se faisaient face. Et puis, en fait, le maire était réticent. Et puis, au final, enfin voilà, les choses se font. Les gens s'intègrent comme n'importe qui arrive sur un territoire et peut s'intégrer, quoi. Donc, quand l'État est là, en fait, ça marche. Quand l'État n'est pas là, Saint-Brévin et Calac, l'État, c'était silence complet. Les élus s'en sont retrouvés sous pression. Le préfet, aucun positionnement pour arrêter la fachosphère sur ces territoires-là. Et ça a explosé en vol. Alors que c'était un CADA. C'était pas un centre, mis en place par une association. C'était un centre d'accueil pour demandeurs d'asile avec des financements de l'État. Mais juste politiquement, l'État était absent. Et donc, c'est parti en live.
Non, juste, je voulais répondre. Là, c'est vrai que on a un exemple là sur notre territoire de Saint-Marcelin, Vercors, Isère, Communauté. Justement, terreaux locaux. Alors, je sais pas s'il y a des collègues de terreaux locaux ici, mais c'est vrai que c'est un bel exemple. Ils font partie du réseau Envita. C'est un bel exemple de collaboration entre une association, une collectivité, voilà, qui permet de l'intégration, voilà, de personnes en situation de migration. Et c'est vrai qu'ils répondent au triple enjeu, donc, mais c'est vrai que enfin, faudrait prendre un temps pour l'expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a, la collectivité avait un enjeu à les recevoir, l'association, enfin, tout le monde a trouvé son intérêt dans cet accueil. Donc c'est vrai que ça fonctionne. Et après, pour répondre un peu à François, voilà, moi je suis élu local, et je pense qu'en tant qu'élu locaux, on est pris dans ce que disait François, l'histoire qui nous est racontée, c'est-à-dire l'histoire de cette migration. On l'a bien vu, les lois qui ont été votées là récemment montrent que même les élus à un plus haut niveau sont pris également dans cette histoire. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à sortir ça et à se dire que il y a d'autres choses à construire, que il y a de la fraternité et qu'il y a des enjeux économiques, parce que c'est vrai que sur les années à venir, je pense qu'on va avoir un enjeu économique sur nos territoires. On se rend compte sur l'agriculture locale, sur toutes ces choses là on va être obligé d'avoir des mains, de reconstruire d'autres formes agricoles. On se rend compte que dans la construction actuellement, on est en manque de main d'œuvre. Enfin, il y a plein d'endroits où on est en manque de main d'œuvre. Donc, je pense voilà que l'image du migrant, je pense que il faut la faire évoluer. Et je pense que les élus locaux, malheureusement, on est happé aussi par ce discours. Et il faut qu'on arrive à reconstruire un autre discours politique. Il y avait récemment un écrit qui expliquait, alors je n'arrive pas à retrouver mes sources, mais qui montrait qui disait ce que disait un petit peu Philippe. C'est-à-dire que quand on regarde notre société, quand on regarde la xénophobie qui était celle des années 75-80, et quand on regarde celle qui est chez la jeunesse actuelle, il y a une évolution positive, il n'y a pas une évolution négative, mais par contre le discours, l'histoire qui nous est faite est différente. Donc on a un décalage entre ce qui se passe au quotidien entre les gens, entre l'évolution de la jeunesse et ce discours politique. Donc il faut qu'on arrive à construire un autre discours politique, mais c'est vrai que ça c'est un enjeu au niveau national, voilà. Et après je pense que les élus locaux, voilà, ben, je veux dire, malheureusement je pense qu'on est pris dans cette nasse, hein. Voilà. Et par contre, je pense, voilà, que le parc, c'est vrai qu'on est dans le travail de la charte. Et je pense que quand on travaille sur l'accueil, peut-être que c'est des choses à travailler. Voilà.
Alors, en résonance avec ce que vient de dire Patrice Ferruya, et sur le terrain de la fraternité, lorsqu'on étudie d'assez près le terrain la fin des années 70, donc contexte de crise économique, immigration zéro, hein, fin d'immigration de travail en 1974. Il y a ce débat dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure lorsqu'on a visité l'exposition entre Jean-Paul Sartre, donc le philosophe marxiste, Raymond Aron, on va dire philosophe sociologue plutôt d'inspiration libérale, donc classé à droite sur l'échiquier politique, qui se retrouve autour de la fraternité, c'est-à-dire avec un devoir moral d'accueillir l'humanité en déshérence. Et ils interpellent, alors un petit peu stimulés par la génération des nouveaux philosophes, ils interpelle le président de la République. Et la réponse de Valéry Giscard d'Estaing est très intéressante. Je cite « Le fait du secours s'impose à tous comme un impératif politique et moral. L'impératif humanitaire n'est autre que le fait de secourir des vies qui sont en danger de mort en les considérant comme des vies qui comptent. » Valéry Giscard d'Estaing, 1979. Et là, on se dit quand même que voilà, hein, ce sont pas les paroles d'un illuminé membre d'une association qui stimule l'appel d'air à la frontière. Vous voyez, c'est un homme d'État en responsabilité, et je me dis que là aussi, effectivement, allons chercher le meilleur et exhumons aussi, et rappelons, hein, à la plus haute autorité politique aussi, c'est de voir les valeurs de la République. C'est pas simplement aux jeunes des quartiers populaires qu'il faut les inculquer. Alors, on a vu l'indigence du débat cette semaine sur autour de la loi sur le racisme. On se dit quand même qu'il se passe des choses graves dans l'hémicycle et qu'il est important aussi peut-être que nous, on incarne et on interpelle, hein, nos décideurs au niveau même macro sur ce que sont aussi leurs obligations et ce que ça signifie une parole publique. Hein.
Donc une association qui est sur l'accueil des migrants mineurs principalement et familles, Rose Merta, c'est une histoire, et ça ce n'est possible sans doute qu'en ville pour tenir de squat. C'est-à-dire que ça a commencé par investir il y a 8 ans, les locaux de l'église à Avignon, qui sont tous vides, et personne au niveau préfecture, mairie, etc., n'a bougé. Ceux qui ont bougé, et la lutte, ça a été avec l'évêché. Hein. Et là, il a fallu des pieds et des mains. Et des fois, c'est le préfet qui a calmé l'évêché en disant... Bon. Maintenant, depuis 6 mois, ça a tellement porté que levée de fonds, c'est plus très très rapidement, en 3 mois, 700 000 euros. Donc maintenant, on a acheté un lieu, refait des travaux, etc. Bien. Juste pour dire aussi qu'en milieu urbain, quand on fait des manifs contre les OQTF devant la préfecture... Il y a des groupes avec les syndicats et avec des entrepreneurs qui sont là et qui gueulent pour garder, y compris pour dire, nous, on sait qu'on n'est pas dans la loi, mais on va continuer. Hein, et voilà. Et ça, en milieu rural, je ne suis pas sûr qu'un entrepreneur va monter au créneau tout seul. Enfin, c'est une histoire aussi de...
Excusez-moi, on va être obligé de s'arrêter parce que à 17h15, on a prévu la projection du film. Je voudrais vraiment remercier tout le monde et peut-être en guise de conclusion, moi j'aurais envie de redire ce qu'on a entendu justement lors du débat sur cette fameuse loi asile-immigration. Moi j'ai entendu un débat sur Mediapart entre Jacques Toubon et la présidente de la CGT et Jacques Toubon disant « il ne faut plus dire « eux » et « nous ». C'est nous tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a envie de porter. Et merci beaucoup aux 4 intervenants. Merci. 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 Merci.